Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 2 février 2021. Bonjour, bienvenue. En Centrafrique, l'Autorité nationale des élections ANE doit annoncer aujourd'hui comment et quand seront organisées les législatives dans les circonscriptions où le vote n'a pu se tenir le 27 décembre dernier. La Cour constitutionnelle en Centrafrique a annulé lundi, pour des irrégularités, les résultats du premier tour des législatives dans 13 circonscriptions sur 140 et l'incertitude demeure sur 58 autres où le scrutin n'a pu avoir lieu en raison de l'insécurité. La juridiction suprême a par ailleurs validé hier l'élection au premier tour de 22 députés sur 140, dont 5 du parti du président Archange Touadéra. Plus d'un mois après le vote, ce sont donc 118 sièges qui restent à pourvoir au Parlement centrafricain, soit lors d'un second tour dont la date n'a pas encore été fixée, soit au terme d'un nouveau scrutin à deux tours. Au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy Brice Parfait Kolela, 60 ans, est de nouveau candidat, comme en 2016 à l'élection présidentielle contre le président sortant, Denis Sassou Nguesso, dont il a dénoncé lundi l'état policier. M. Kolela a demandé à ses militants d'aller se faire inscrire massivement sur les listes électorales. Lancée le 7 janvier, une opération de révision de ces listes doit être clôturée officiellement le 16 février. Un autre candidat s'est déclaré lundi, il s'agit de Albert Onyangé, ancien aide de camp du président Sassou Nguesso entre 1979 et 1992. L'UPADS, le principal parti de l'opposition, a décidé pour sa part de ne pas prendre part au scrutin du 21 mars prochain. Le gouvernement tchadien a interdit lundi plusieurs manifestations prévues cette semaine par l'opposition qui réclame plus de justice sociale et l'alternance politique, alors que le président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, doit être investi samedi par son parti, candidat à l'élection présidentielle d'avril. Malgré cette interdiction, les organisateurs, parmi lesquels plusieurs associations de la société civile et le parti d'opposition Les Transformateurs, ont fait savoir qu'ils maintenaient les marches pacifiques les 4, 5, 6 et 7 février prochains. L'élection présidentielle au Tchad aura lieu le 11 avril et les élections législatives ont été fixées l'été dernier au 24 octobre 2021, après avoir été maintes fois repoussées depuis 5 ans. 8 personnes, dont un élève de 15 ans, ont été tuées dimanche au Burkina Faso lors d'un braquage sur un site d'orpaillage dans le sud-ouest du pays, à une dizaine de kilomètres de Gawa, chef-lieu de la région, ont annoncé lundi des sources sécuritaires et judiciaires, confirmant le bilan provisoire de 8 morts. Le procureur du tribunal de grande instance de Gawa, Cheikh Alpha Aboubakar Compaoré, a précisé que certains ont été tués par balles et d'autres par des coups de machette. Le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir aujourd'hui, mardi, une réunion d'urgence sur la situation en Birmanie. Cette réunion par visioconférence se tiendra à huis clos et selon l'ONU, un exposé des derniers développements devrait être fait par l'émissaire de l'ONU sur ce pays. La Suissesse Christine Schaner, Bergner étant celle qui va officier. L'ambassadrice britannique à l'ONU, Barbara Woodward, a indiqué, et je cite, « Notre objectif reste de voir une restauration de la démocratie et la libération des prisonniers dans un premier temps et la fin du coup d'État. » Fin de citation. Le ministre iranien des Affaires étrangères a demandé lundi à l'Union européenne de jouer les médiateurs entre l'Iran et les États-Unis pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Il peut clairement y avoir un mécanisme, soit pour synchroniser le retour des deux pays dans le clou de l'accord, soit coordonner ce qui peut être fait, a dit Mohamed Javad Zarif sur la chaîne CNN internationale. Selon lui, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, peut mettre sa casquette de coordonnateur de la commission conjointe de suivi de l'accord de 2015 et chorégraphier les mesures qui doivent être prises par les États-Unis et les mesures qui doivent être prises par l'Iran. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, la Côte d'Ivoire et le Bénin, dans le viseur des djihadistes d'Al-Qaïda, selon les renseignements français. L'Afrique du Sud a reçu son premier stock de vaccins contre le coronavirus et coup de force en Birmanie. Washington menace de rétorsion la junte qui a pris le pouvoir à Rangoon. Jean-Roger Billon, nous sommes le 2 février 2021. Dans un instant, nous revenons. Nous émettons de Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
suite de nos informations, ce mardi 2 février 2021, le groupe Al-Qaïda au Sahel développe actuellement un projet d'expansion vers le golfe de Guinée, en particulier en Côte d'Ivoire et au Bénin. C'est ce qu'a assuré hier Bernard Aimier, le patron du renseignement extérieur français. Les détails avec Nani Talani.
Bernard Aimier a montré des images d'une réunion tenue en février 2020, rassemblant dans le centre du Mali les plus hauts responsables locaux de la centrale djihadiste. Il a expliqué que l'objet de cette réunion était la préparation d'opérations de grande ampleur sur des bases militaires. C'est là que les chefs d'Al-Qaïda au Sahel ont conçu leur projet d'expansion vers les pays du Golfe de Guinée, a affirmé M. Aimier. Selon lui, ces pays sont désormais des cibles des djihadistes. Pour desserrer l'étau dans lequel ils sont pris et pour s'étendre vers le sud, les terroristes financent déjà des hommes qui se disséminent en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Des combattants ont également été envoyés aux confins du Nigeria, du Niger et du Tchad, a-t-il expliqué. Selon la Direction générale française de la sécurité extérieure, parmi les personnes présentes à la réunion de février 2020, figure Abdelmalek Droukdel, chef historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, tué en juin par les forces françaises dans le nord du Mali. On y compte aussi Iyad Ag Gali, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et l'un de ses fidèles adjoints, Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina. La France a déployé 5100 hommes dans le Sahel, une région en proie aux groupes djihadistes.
Coronavirus, lueur d'espoir en Afrique du Sud, le pays le plus touché du continent par l'épidémie, avec plus de 44 000 décès, a reçu hier lundi sa première cargaison de vaccins contre le Covid-19. Le point avec Abdou Rahman Dia.
La télévision publique SABC a montré le président Cyril Ramaphosa à l'aéroport international OR Tambo, réceptionnant sous une pluie battante 1 million de doses du vaccin britannique AstraZeneca Oxford produit en Inde. L'arrivée du vaccin procure un grand espoir pour la remise sur pied économique et sociale de notre pays et, plus important, pour la santé de notre peuple, a déclaré le président Ramaphosa. Une livraison de 500 000 doses supplémentaires est attendue au cours du mois de février. Cette arrivée va permettre le début d'une campagne de vaccination de masse qui ciblera en priorité le personnel de santé. Les injections à environ 1,2 million de membres du personnel de santé commenceront d'ici environ 2 semaines après le passage du vaccin par une nécessaire quarantaine et des procédures réglementaires et de vérification de qualité. Les autorités prévoient à terme de vacciner d'ici la fin de l'année au moins 67% de la population, soit environ 40 millions de personnes. L'épidémie de COVID-19 en Afrique du Sud a été accélérée par un nouveau variant suspecté être plus contagieux.
Le président américain Joe Biden a appelé hier l'armée birmane à rendre immédiatement le pouvoir, menaçant de réimposer les sanctions levées au cours de la décennie écoulée. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
La communauté internationale doit parler d'une seule voix pour exiger de l'armée birmane qu'elle rende immédiatement le pouvoir, a déclaré le président Joe Biden après le coup d'État mené par l'armée. Le président américain a annoncé un réexamen immédiat des sanctions qui avaient été levées en raison des progrès vers la démocratie et a évoqué la nécessité de prendre les mesures appropriées. Les États-Unis défendront la démocratie partout où elle est attaquée, a renchéri Joe Biden. Les militaires birmans ont arrêté la chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi et des responsables de son parti, ainsi que le président de la République Win Myint. Pour justifier ce coup d'État, ils affirment que les législatives de novembre sont entachées d'énormes irrégularités, ce que la commission électorale dément. Ce scrutin a été remporté par la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, au pouvoir depuis les élections de 2015. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU aura lieu ce mardi. La Birmanie est sortie il y a 10 ans d'un régime militaire au pouvoir pendant presque un demi-siècle.
Voici venu l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani.
Au Burkina Faso, l'Italie apporte 3,5 millions d'euros d'assistance aux populations bénéficiaires des activités du Programme alimentaire mondial. À en croire l'agence Ecofin, ces fonds permettront à l'ONU d'assurer les besoins alimentaires de base de 55 000 déplacés et d'aider leurs familles d'accueil sur 3 mois. Ils serviront aussi à soutenir les initiatives de résilience et d'autres activités pour près de 24 000 personnes sur les 6 prochains mois. En Afrique du Sud, le nombre de rhinocéros tués en 2020 a chuté de 33%, en partie grâce aux mesures anti-Covid qui ont réduit les mouvements des braconniers. au moins 394 rhinocéros ont été abattus en 2020 contre 594 en 2019, a fait savoir le ministère sud-africain de l'Environnement. La plupart des rhinocéros ont été tués dans le parc national Kruger, un parc touristique situé à la frontière du Mozambique. L'Afrique du Sud, qui abrite près de 80% des rhinocéros de la planète, a vu le nombre de spécimens tués diminuer pour la sixième année consécutive. Pour terminer, au Sénégal, les 750 pélicans retrouvés morts il y a une semaine dans le parc de Djoudj ont été tués par la grippe aviaire, selon les résultats préliminaires des tests du laboratoire, a affirmé le ministère de l'Environnement. Un responsable du parc de Djoudj avait initialement écarté cette piste. Les autorités sénégalaises ont interdit au public l'accès au parc.
Place maintenant à la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se déroulent au Cameroun mettront aux prises demain le Mali et la Guinée au stade de Japoma à Douala. Coup d'envoi 16h temps universel, puis à 20h place au choc Maroc-Cameroun à Limbé. Ces matchs devront se disputer sous le regard d'Ahmad Ahmad qui a repris les commandes de la CAF après la décision du tribunal arbitral du sport qui a suspendu la sanction prononcée contre lui par la commission d'éthique de la FIFA en novembre dernier. En Algérie, des supporters du Mouloudia Club d'Alger, un des clubs phares de Ligue 1, ont vandalisé hier le siège de leur sponsor, le géant public des hydrocarbures Sonatrach. Selon des médias locaux et une vidéo partagée sur Internet, des vidéos filmées de l'intérieur du siège de la Sonatrach montrent des dégâts matériels causés par cette attaque. Les supporters mécontents exigeaient le départ du géant pétrolier. Après une série de mauvais résultats, l'entraîneur du MCA, Nabil Naguish, avait fait allusion samedi aux mensualités impayées des joueurs de l'équipe, financées majoritairement par la Sonatrach, s'attirant les foudres de la direction du club qui a jugé ses propos irresponsables, explique le quotidien francophone Liberté. Transfert, l'international malien Youssouf Kone de Lyon a été prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison au club turc d'Antalyaspor, a annoncé l'OL. L'arrière gauche de 25 ans était prêté depuis le début de la saison au club espagnol d'Elche en première division. Ce prêt, qui devait prendre fin le 30 juin, a été rompu par les deux clubs. En Espagne, le contrat actuel de Lionel Messi, la superstar argentine du FC Barcelone, prévoit plus de 555 millions d'euros de revenus bruts pour le capitaine du Barça entre novembre 2017 et juillet 2021, a révélé le quotidien El Mundo. Selon le journal, la Pulga a déjà perçu plus de 500 millions d'euros presque, sans compter les droits d'image. Messi empoche ainsi près de 139 millions d'euros bruts chaque année. Sa clause de libération est passée de 250 à 700 millions d'euros. Ces révélations font sensation en Catalogne, dans un club sérieusement endetté et toujours sans président, à 5 mois de la fin du contrat de la Pulga, et alors que Messi est officiellement autorisé à négocier avec d'autres clubs depuis le 1er janvier 2021.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Dion toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Plusieurs opposants congolais se retirent de la présidentielle du 21 mars 2021. Parmi eux se trouve Andrea Ngombe Malewa, coordonnateur du mouvement politique Incarner l'Espoir et l'une des premières personnes à avoir déclaré leur intérêt pour la course à la présidence. Il explique avoir retiré sa candidature, entre autres pour la sécurité de certains de ses sympathisants qui vivent en liberté conditionnelle après plusieurs mois d'incarcération. Il dénonce aussi les conditions d'organisation du scrutin. Il a été joint à Paris en France par Nani Talani.
Malheureusement non, j'ai dû retirer ma candidature suite aux conditions de violence dans lesquelles j'ai dû opérer et évidemment à la pandémie de COVID-19 qui a vraiment perturbé nos plans de campagne. Les deux sympathisants du mouvement Incarner l'Espoir ont eu à être emprisonnés durant toute l'année 2020 sur le motif d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et donc le niveau de violence était tel qu'aucune de nos opérations d'organisation n'a pu réellement se dérouler sereinement. Nous avons pu obtenir leur libération, mais malheureusement une libération provisoire. Ces deux les mains en danger d'être à tout moment reconduits en prison sur ce motif fallacieux.
L'UPADES, l'un des grands partis de position au Congo, vient de se retirer de la course à la présidentielle. Qu'en pensez-vous?
Ce retrait est assez ambigu. L'UPADF se retire de la présidentielle, mais reste en course pour les législatives de 2022. Donc, nous pensons que c'est un quasiment événement, ou plutôt un aveu d'échec de la principale formation d'opposition, qui n'a pas su, en 5 ans, préparer un projet d'alternative à proposer au peuple congolais.
Pourquoi l'opposition congolaise a-t-elle du mal à désigner un candidat unique pour affronter le PCT?
Déjà parce que cette opposition est diverse. Il y a une opposition qui se réclame du centre, c'est-à-dire proche du pouvoir. Il y a une opposition qui est dite radicale, c'est-à-dire quasiment hors les murs, hors l'institution. Et enfin, il y a des oppositions plus ou moins démocrates, donc il y a cette diversité. Mais c'est aussi dû, comme le dit bien les rapports de Freedom House et de plein d'autres rapports qu'on pourrait citer, le climat politique congolais est un climat autoritaire, donc il est difficile de faire confiance et de se coaliser. Mais l'élection n'a pas encore eu lieu, donc nous espérons que, entre maintenant et l'élection, l'opposition sera se rassembler sur l'essentiel.
Certains opposants et membres de la société civile dénoncent les conditions d'organisation de la présidentielle. Êtes-vous de leur avis?
Partiellement. Le principal élément qu'il faut critiquer vivement est cette nouvelle loi électorale qui a été votée à la Sevette fin août 2020, qui institue un double vote, c'est-à-dire un vote de militaire avant celui de civil, a suivi d'aucun mécanisme de contrôle, ce qui fait que le militaire qui aura voté dans sa caserne le 17 mars 2021 pourra ensuite aller voter à la cité en civil tranquillement sans aucun contrôle. Donc c'est la porte ouverte à toutes les fraudes. Et enfin, il y a cette question du fichier électoral qui n'est toujours pas résolue puisque le dernier recensement sérieux date en fait des années 2010 et depuis, nous sommes 10 ans plus tard, il n'y a pas eu de recensement sérieux au Congo. Celui qui avait été envisagé en 2020 ne s'est pas déroulé complètement. Donc, nous ne savons pas sur quelle base, sur quel fichier nous allons aller à l'élection. Cela est vraiment dommageable pour la démocratie.
Est-ce que ces problèmes ne compromettraient pas l'organisation d'une élection crédible ou transparente?
Ne comprenons pas seulement. Peu importe en fait comment on va être organisé l'élection, il faut y participer. Y participer pour porter les voix, mais surtout y participer pour essayer de construire ce fameux rapport de force qui est le seul véritable élément de mesure dans un régime autoritaire. Et ce rapport de force ne se mesure qu'à travers la mobilisation.
Donc cette situation aurait forcément un impact sur les résultats de la présidentielle.
Cette situation peut avoir un impact au sens où le gouvernement actuel cherchera massivement à frauder et à se maintenir. Et nous sommes convaincus que si la pression populaire et électorale est suffisamment forte, comme ça s'est vu en Gambie, ailleurs en Afrique notamment, peu importe la nature du régime, quand la pression populaire est là, il finit toujours par tomber.
Comment voyez-vous le Congo après la présidentielle de mars 2021?
Nous espérons et continuons à travailler pour l'unité de l'opposition afin d'obtenir l'alternance de mars 2021, en tout cas sur le travail que nous fixons. Mais au-delà de cet horizon, nous continuons à nous former pour pouvoir appeler les citoyens congolais à plus de civilité, à toujours plus d'engagement, parce que si on ne s'engage pas, la démocratie démocratie n'adviendra pas. Et même quand elle advient, la démocratie est un combat de chaque instant qu'il faut continuer à consolider.
C'était Ngombe Maloua, coordonnateur du mouvement politique Incarner l'espoir.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Togo, la ville touristique d'Anéo, située à une quarantaine de kilomètres à l'est de Lomé, la capitale, veut retrouver son charme d'antan. Elle a lancé Anéo Ville Verte, ma commune éco-togolais, un projet communal visant à promouvoir le recyclage des déchets en impliquant les élèves. De retour d'Anéo, le reportage de notre correspondante Kaila Lawson.
Anéo, ma ville lumière sans déchets.
C'est à cet idéal que s'attellent les nouvelles autorités de la ville d'Anéo. Deux fois capitale du Togo, la ville tricentenaire est confrontée à des défis climatiques et environnementaux. Anéo est un territoire qui est situé entre la mer, la lagune et le lac. Pendant que l'érosion la grignote, sa population l'étouffe de sachets plastiques et autres déchets recyclables. Après réflexion, il a été décidé de mettre les élèves à contribution pour faire d'Anéo une ville verte. Alexis Akereboro, maire de la commune Lac 1.
Ce projet est une démarche pédagogique à l'endroit de la population pour leur faire comprendre que la propriété de la ville dépend de chacun d'entre nous. Mais ce message ne peut être mieux porté que si nous le faisons véhiculer à travers les enfants dans le cadre d'un projet éducatif. Et donc c'est pour cela que nous avons fait le choix des écoles primaires. Notre ville n'est pas propre, il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et le meilleur moyen de la rendre propre est de demander aux enfants de nous aider à avoir une ville verte.
L'initiative Anéo Ville Verte, ma commune éco-togolais, fait du tri sélectif le soubassement du projet. Les meilleurs élèves, collecteurs de déchets recyclables, seront récompensés avec des kits scolaires et des lampes solaires. Edem Dalmeda, responsable de Africa Global Recycling, partenaire du projet.
En alliant la question du tri sélectif par les élèves, nous récupérons des déchets recyclables qui ont de la valeur et qui vont permettre à fournir davantage de lampes solaires aux élèves.
Des élèves sensibilisés sur la thématique ont écrit des poèmes.
Je m'appelle Atiso Difaoli, j'ai 8 ans, je suis au CE2. Dans le poème, j'ai dit « De notre fille Saline, notre ville à Néro, parce que une ville propre, fait que nous sommes en bonne santé. Si je vois quelqu'un qui jette les déchets dans la rue, je lui dis de reprendre les déchets et de les mettre dans la poubelle.
Rendre à la ville touristique d'Anéo, où l'on peut admirer l'embouchure, sa beauté naturelle, est au prix de ses initiatives écologiques. Kyle Lawson, de retour d'Anéo pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
Au Tchad, une enquête de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a mis en relief la faible représentativité des femmes à la tête des entreprises de presse. La HAMA fait ainsi le plaidoyer pour la prise en compte des femmes dans des instances dirigeantes des médias publics et privés. Le point avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajinga.
Sur 56 radios privées, il n'y a que 3 femmes dirigeantes. Sur 29 journaux privés, une seule femme est co-directrice de publication. Au niveau des médias de service public, 2 femmes sont directrices générales. Sur 25 stations provinciales de l'ONAMA créées, une seule femme est chef de station.
Bethel Miarom, chef du département de développement des médias à la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, un organe de régulation des médias au Tchad. Selon Halime Assadia Ali, directrice générale adjointe de l'ONAMA, Office national des médias et de l'audiovisuel, 3 éléments justifient la faible représentativité des femmes dans le secteur des médias au Tchad.
La plupart de nos familles préfèrent investir sur les garçons que sur les filles. Deuxième phénomène, on a souvent du mal à voir les femmes exercer dans les secteurs qui exposent entre griffes. Troisième élément, les premières rares femmes journalistes qui se trouvaient dans les rédactions étaient confinées un peu à des rôles secondaires. Donc ça ne permet pas aux femmes d'avoir une ascension au sein déjà des rédactions et par les coucher, attendre le sommet pour gérer une radio, une télévision, une presse écrite.
Cependant, elle loue le mérite de quelques rares femmes qui ont fait leur preuve.
La première radio communautaire a été créée par une femme et elle a fait son chemin. Dans la presse écrite, on a eu la première femme à avoir sa publication, Kumbo, qui l'a dirigée pendant des années. Je pense qu'on n'a rien à lui reprocher. Et aujourd'hui, quand vous arrivez dans nos rédactions, que ce soit dans le public ou dans le privé, il n'y a pas quelque chose que les hommes font que les femmes ne font pas. Même si on sait qu'en tant que femme, dans une rédaction, on a un double défi. Le défi d'être femme et le défi d'être professionnelle. Et être professionnelle, ça suppose de faire deux fois le même travail que nos collègues hommes pour qu'on nous reconnaisse ça.
Relever les défis, Mme Seka Isabelle Assignar, directrice générale de l'Agence Cadienne de Presse et d'Édition, en est consciente.
Pour nous autres, c'est un sacrifice. La mentalité prend les femmes comme des gens qui aiment leur corps, donc elles ne peuvent pas se battre.
Elle invite ses sœurs à plus d'abnégation pour renverser la tendance.
Je peux demander seulement à mes sœurs d'exercer le métier par vocation et dire je veux tirer mon épingle du jeu pour pouvoir émerger parce que c'est un métier difficile, très exigeant. Et l'homme, par instinct de domination, ne veut pas freiner la femme. Il y a également ça. Il ne faut pas l'écarter totalement. Nous affrontons des difficultés au quotidien.
Bethel Miarom, chef du département de développement des médias, a déclaré à VOA Afrique que son organe de régulation, la AMA, entend corriger ce déséquilibre pour qu'il y ait une meilleure représentativité des femmes dans le secteur des médias au Tchad.
Il est de notre devoir d'encourager les filles à aller dans les écoles de journalisme notamment. Nous entendons également encourager toutes les entreprises de presse, qu'elles soient publiques ou privées, à faire confiance aux femmes. Nous pensons qu'il est important que les femmes soient responsabilisées au même titre que les hommes.
La AMA, dans l'une des missions, est de donner son avis sur la nomination des responsables des médias publics, s'engage à assurer l'égalité de sexe dans le secteur des médias au Tchad. André Kodemadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, le président congolais Félix Tshisekedi a réussi son pari de se défaire du FCC de Joseph Kabila avec qui il était en coalition. Après la démission du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et disposant d'une forte majorité à l'Assemblée nationale, le chef de l'État a désormais les coudées franches pour dérouler son programme de gouvernance avec l'Union sacrée. Quelles sont les implications de ce nouveau rapport de force dans le champ politique congolais à 2 ans de la présidentielle? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Aux États-Unis, les membres du Congrès américain s'apprêtent à entamer les débats sur les mesures de relance économique en rapport avec la pandémie de COVID-19. Lundi déjà, un groupe de parlementaires républicains a rencontré le président Joe Biden. Dans le même temps, la vaccination de masse contre le coronavirus se poursuit au plan national, ainsi que l'explique Michel Quinn dans un reportage. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est en baisse, tout comme celui des admissions dans les hôpitaux américains. Mai janvier aura été le mois le plus meurtrier, avec plus de 90 000 décès liés à la pandémie. Le lancement de la campagne de vaccination a été chaotique, soulevant la question de savoir qui doit être vacciné. Le docteur Richard Besser est un ancien directeur de centre de contrôle et de prévention des maladies.
Pouvons-nous administrer des vaccins aux personnes les plus à risque d'être infectées, d'être hospitalisées et de mourir?
Le Congrès subit d'intenses pressions pour faire parvenir aux États-Unis des fonds pour la vaccination et à l'assistance aux nécessiteux. On s'attend à ce que les législateurs se penchent cette semaine sur le plan de relance du président Joe Biden d'une valeur de 1900 milliards de dollars. Celui-ci inclut des fonds pour une campagne nationale de vaccination, de même qu'une expansion des allocations chômage. Le président Joe Biden.
Je soutiens l'adoption du plan de relance COVID avec le soutien des républicains si possible, mais le plan doit passer. Il n'y a pas de si, ni ou de mais.
De nombreux législateurs républicains sont réticents, demandent si un tel niveau de dépenses est nécessaire. 10 sénateurs républicains, eux, ont écrit à Biden dimanche pour demander un compromis, proposant un tiers de ce que demandent les démocrates. Pour le sénateur Bill Cassidy de Louisiane, le président Biden ne cherche pas vraiment l'unité, mais un vernis bipartisan. Pour leur part, les démocrates assurent qu'ils cherchent un moyen d'adopter le plan avec une petite majorité. Le sénateur indépendant Bernie Sanders du Vermont est le président entrant de la commission du budget.
Si les républicains veulent travailler avec nous et qu'ils ont de meilleures idées sur la manière de résoudre ces crises, tant mieux. Mais pour être honnête avec vous, je n'en ai pas encore entendu.
La fenêtre d'opportunité pour agir rapidement sur le plan d'assistance pourrait se refermer temporairement. En effet, le début, le 9 février, du procès au Sénat de l'ancien président Donald Trump pourrait ralentir les efforts des législateurs.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.